filmer quelqu'un, c'est toujours l'enfermer. Je vous filme, je vous fige, je vous enferme dans un cadre. Et du coup, il me semble que le cinéaste a une forme de responsabilité face à ça. C'est la question de l'après. Qu'est-ce que je laisse derrière moi quand je fais un film ?
Le petit doigt, il pousse. Ils sont tous lavés.
Voyons. Ah oui, il avait un petit peu là sur le pouce.
Sur le petit doigt, le pouce, il est là.
Oui. Et là, comment tu l'appelles celui-là ? Len ?
Dex. Le nageur.
La nuit.
L'air.
L'eau. Lori.
Santal.
L'auriculaire.
Le grand atelier sur France Inter.
Sur le livret du coffret qui réunit ses films, le cinéaste Nicolas Philibert a choisi de montrer une photo de lui, enfant, il doit avoir 1 an et demi, 2 ans, et tout est déjà là. Les cheveux en pétard, qui lui donnent encore aujourd'hui l'air d'un gamin, et aussi 2 grands yeux qui semblent dévorer le monde. Et c'est peut-être ça un auteur de documentaire, un artiste qui regarde les autres avec de l'appétit. Depuis 1978, Nicolas Philibert nous regarde bouger, agir, réagir, vivre au milieu des autres, témoigner. Il filme nos vies, nos défis. Il filme les lieux où nous vivons et que nous visitons. Ses grands yeux bleus ont vu pas mal de choses. Il y a 12 films dans le coffret de DVD qui traduisent l'étendue de sa curiosité. Il s'intéresse au patron dans la voix de son maître.
Lorsque on exerce, si vous voulez, sa fonction de chef d'entreprise comme je l'entends, on n'a pas l'impression d'exercer un pouvoir.
Il passe du temps au milieu de ceux qu'on appelle les fous, la moindre des choses.
Vous savez qu'il y a un spectacle au 15 août ?
Mais il y a une poterie, il y a une truc de...
Oui, mais là, ça serait pour le théâtre. Est-ce que ça vous dirait une année de monter sur scène ? Vous me rendez ma main ?
Il capte les réactions des visiteurs d'un zoo devant l'orang-outan Nénette.
Né en 1969 à Bornéo.
Il pose sa caméra dans un musée, c'est la ville Louvre.
Allez, bien droit, bien tendu. Et retenez le rouleau, retenez le rouleau.
Ou s'invite dans une école primaire, sans imaginer encore le succès d'être et avoir. Récemment, dans De chaque instant, il a saisi notre époque en observant des élèves infirmiers en train d'apprendre autant les gestes du métier que la relation du soignant au malade.
L'intramusculaire, on va tendre la peau. On ne fait pas de plis comme avec la sous-cutanée. Perpendiculaire à 90 degrés, on est comme ça. Et on y va, d'accord ? C'est comme ça que vous ne faites pas mal, c'est comme ça que vous êtes sûr d'être en intramusculaire.
Bonjour Nicolas Philibert.
Bonjour.
Tout ce qui est vivant vous intéresse ?
Oui. Oui, j'ai une soif d'aller à la découverte du monde dans lequel je vis, au fond. Et j'ai souvent l'habitude de dire que le bistrot du coin peut faire l'objet d'un film formidable, qui sait ? On y trouve des gens qui travaillent, des gens qui se rencontrent, des gens qui souffrent ou pas, ou qui sont heureux de se retrouver. Enfin bref, c'est la vie.
Un lieu idéal de cinéma.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est souvent les hasards qui me poussent à faire ce film plutôt que celui-là. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'impose, une nécessité, le désir d'y aller voir de plus près, le désir de prendre un risque de cinéma. C'est-à-dire de me pousser moi-même dans mes retranchements. Quelque chose comme ça, au fond.
Je vous imagine arrivant dans un bistrot avec cette idée que vous avez exprimée de filmer la vie, les confidences, les exaspérations, les Français qui râlent. Vous arrivez avec votre caméra à l'épaule, parce que c'est vous qui filmez depuis un certain nombre d'années maintenant, Nicolas Philibert, et puis vous attendez qu'il se passe quelque chose. Vous n'aurez pas préparé, vous n'aurez pas enquêté au préalable.
J'aurais pas préparé, je n'aime pas trop préparer, je suis bien obligé de le faire de temps en temps parce que pour pouvoir chercher des financements d'un film, il faut bien écrire quelques pages, une note d'intention, on appelle ça une note d'intention, pour décrire un peu l'idée et un peu peut-être quelque chose de la façon dont on voudrait s'y prendre, mais en même temps, je n'aime pas trop me documenter à l'avance parce que sinon, au fond, si j'en sais trop, j'ai plus trop envie de faire le film. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui fait mes films pour étaler un savoir que j'aurais engrangé au préalable. Mais tout au contraire, je fais mes films à partir d'un non-savoir, de mon ignorance, avec ma curiosité et l'envie d'aller à la rencontre de quelque chose. Pour moi, c'est pas tant le sujet qui compte, c'est l'idée de projet. C'est-à-dire qu'il y a la promesse de quelque chose.
La promesse de rencontre.
La promesse de rencontre, la promesse de comprendre pourquoi j'ai voulu aller là. Bien souvent, on vous dit, mais alors qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? J'en sais rien. Et je ne cherche pas tellement à le comprendre, qu'importe au fond. Parce qu'il faut maintenir intacte ma curiosité.
Elle vient d'où cette curiosité?
Je sais pas. Ça remonte à loin, sans doute. Peut-être au premier film que j'ai vu, enfant ou adolescent. J'ai commencé à voir des films au ciné-club de Grenoble. Et des films souvent en langue étrangère.
Bergman,
Rossellini, Antonioni. C'était l'occasion de découvrir des paysages et des visages que je connaissais pas. C'était l'occasion d'entendre des langues, des accents.
Et puis aussi un certain rythme lent.
Oui, je me sens souvent bien dans les films qui prennent le temps. Et moi aussi, je crois que je suis quelqu'un qui essaye de prendre mon temps.
Et qui passe parfois des années avec un sujet.
Oui, parce qu'un film, dans ma façon de faire, c'est chaque fois 2 ans de travail. Entre les recherches de financement, le tournage. Souvent, mes tournages s'étalent sur 5-6 mois.
On peut faire l'éloge de la lenteur quand on fait du documentaire.
Oui, c'est pas une condition sine qua non. Il arrive qu'on fasse un documentaire en 5 jours. Mais en tout cas, chez moi, c'est plus souvent un peu long. Le montage dure 5-6 mois. Puis après, il y a toutes les finitions du film, le mixage, l'étalonnage, le labo, etc. Donc ça prend du temps. Et puis, pour moi, les films, une fois finis, ne le sont pas vraiment. Moi, j'ai tendance à penser que les films grandissent avec leurs spectateurs. De même que les textes ou les livres grandissent parfois avec les lecteurs. Quand on a terminé un film, les spectateurs vous en apprennent beaucoup sur ce que vous avez fait vous-même. Et ils vous révèlent des choses. C'est merveilleux, ça. Comme quoi le film, une fois fini, continue à vivre et à vous habiter. C'est petit à petit, il va vous pousser vers le film d'après. Ça compte beaucoup, cette...
On en parlera dans votre grand atelier. Nous aussi, on peut faire l'éloge du temps, de la durée dans cette émission qui dure 2 heures. On va passer 2 heures en votre compagnie. Bienvenue dans ce grand atelier en compagnie de vos invités. On va en retrouver tout de suite en duplex de Cannes. Mais je voudrais qu'on écoute d'abord un peu de musique. C'est un groupe de rock américain, The Raconteurs, qui commence le grand atelier de Nicolas Philibert avec Help Me, Stranger.
Sure don't have the time.
Ils sont à Cannes, vos premiers invités, Nicolas Philibert. Il y a la distributrice des films du Losange, Régine Vial. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour Vincent. Bonjour, vous avez produit et distribué plusieurs films de notre invité, dont Être et Avoir et La Maison de la Radio. Et puis il y a aussi à vos côtés le patron du cinéma Méliès à Grenoble. Je salue Bruno Tivillier, bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Pourquoi Nicolas Philibert, la présence est de Régine Vial et de Bruno Tivillier?
Régine vraiment fait partie de ma cosmogonie, si j'ose dire. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps. Je me sens vraiment en bonne main avec elle.
Vous pourriez dire en famille ?
Oui, je pourrais dire en famille, absolument. Régine est une travailleuse acharnée, elle baisse jamais les bras, elle est toujours du côté des cinéastes et des auteurs. Et je dirais, ça se sent non seulement quand elle sort les films, mais plus largement parce que c'est quelqu'un qui, par exemple, fait travailler son catalogue. Une fois le film fini, vous avez plein de producteurs et distributeurs qui passent au film suivant, etc., et qui s'intéressent plus à ce qu'ils ont sorti ou produit dans le passé. Régine, c'est pas ça. Elle fait fructifier l'œuvre des auteurs qu'elle accompagne.
Comme vous qui aimez que le film se prolonge, Régine Vial prolonge aussi la vie des films.
Absolument, oui. Donc elle est pour moi extrêmement précieuse, je l'aime beaucoup.
Régine Vial, une déclaration d'amour en direct dans le Grand Atelier.
Merci, c'est très beau, merci, je suis très touchée Nicolas.
C'est vrai que vous travaillez avec des auteurs, Régine Vial, depuis toujours, c'est le propre de votre société de production et distribution des films du Losange, alors que vous ne dirigez pas toute seule, hein. Vous êtes nombreux dans cette société, mais vous avez des auteurs comme Haneke, vous avez eu Romer.
Oui, mais ce que je dois dire sur les films de Nicolas, c'est que c'est très facile parce que Nicolas est toujours au cœur des choses. Quand il produit, il est au cœur de sa production, il est un artisan, il choisit chaque personne, il est attentif à tout. Dans son montage, il le fait seul, chez lui, chaque plan est choisi, connaît parfaitement son film, son matériel. Il a une attention aux gens qu'il filme, ce qui fait qu'au-delà de ses films, il recherche la vie, il recherche l'âme des gens, il recherche ce qui les anime, et c'est ce qu'on retrouve dans les films, par exemple dans De chaque instant, quand on voit tous ces jeunes, c'est merveilleux de comprendre qu'au-delà du soin infirmier, ce qu'il montre, c'est l'entrée dans la vie, le fait de devenir plus sûr de soi, de grandir.
Oui, grandir.
De devenir. Et ça, c'est très, très beau.
Alors, qu'est-ce que vous faites s'il fait tout seul ou presque?
Je l'écoute, je le suis. Par exemple, sur un dossier de presse, il vérifie tout, mais avec beaucoup de bienveillance.
Il n'est pas trop pénible?
Non, il est adorable. Et surtout, il va dans les salles. Il a un grand, grand amour du public, de cette rencontre dont il parlait entre l'œuvre et le public. Et ses films marchent parce qu'il va partout en province, quelquefois plusieurs fois dans le même lieu, pour rencontrer, écouter, répondre aux questions. Et la salle de cinéma est le cœur de ce moment. C'est un lieu très fort où les gens et lui peuvent parler.
À vos côtés, Régine Vial, il y a justement le directeur d'une salle de cinéma. C'est Bruno Tivillier qui dirige le Méliès à Grenoble. Pouvez-vous nous parler de... justement, du comportement peut-être de Nicolas Philibert avec les spectateurs de votre cinéma?
C'est toujours une relation particulière qu'il a avec les publics. Je préfère parler des publics au pluriel d'ailleurs. Et Nicolas, il peut aussi bien venir présenter un film qu'il vient de sortir que de venir pour parler d'un film plus ancien. Et il est très à l'aise en public, évidemment. Il est très avenant. Il est très généreux dans la rencontre. Parfois, il aime bien être seul en piste, Mais moi, j'ai coutume d'accompagner les réalisateurs en salle. Et je me souviens d'une des premières fois où je l'ai accueilli. Il m'avait dit, je me débrouille, tu peux rester sur le côté. Et en même temps, voilà, je l'avais regardé. Il était très à l'aise, évidemment, pour parler de son film. Très curieux des réactions du public. Et puis quand même, moi j'ai envie de le rappeler ici, Nicolas est un de nos parrains du Méliès à Grenoble. Nicolas a une relation toute particulière à Grenoble, mais aussi toute particulière avec le Méliès à Grenoble, où il a été un de nos soutiens très forts quand nous avons déménagé sur un nouveau site il y a 7 ans, et ça je ne l'oublierai jamais. C'était un des cinéastes aussi, et ça le définit, je crois, c'est un cinéaste engagé. Plus que militant, c'est un cinéaste engagé, et sur lequel on peut toujours compter, donc je suis à la fois très admiratif de son travail et puis aussi très très attaché à ce cinéaste-là.
Pourquoi Bruno Thivillier alors plutôt qu'un autre directeur de salle, Nicolas Philibert ?
D'abord, j'ai grandi à Grenoble. Et vers la fin des années 60, est née cette toute petite salle. C'était la Cinémathèque de la rue de Strasbourg, enfin, petite salle de 90 places. J'y ai découvert, j'y ai vu plein de films adolescents. Bien des années après, cette salle a cherché à s'agrandir, etc. Et le projet n'a pas été soutenu par le centre du cinéma, par le CNC, par l'État. Du coup, un combat s'est engagé pour que une nouvelle salle, pour que cette salle déménage, s'agrandisse, devienne une salle de plusieurs écrans, etc. Alors, aujourd'hui, ce nouveau Méliès existe et Bruno et son équipe font tout un travail qui va dans le sens de l'éducation à l'image. Il y a des cours sur le cinéma, d'analyse filmique. C'est une dimension extrêmement importante aujourd'hui. On est dans un monde noyé d'images.
Vous le déplorez souvent, ça ?
Quand on voit les réseaux sociaux, ce qui s'y fait, c'est quand même assez inquiétant.
Plus la multitude d'informations que tous les GAFA ont sur nous.
Mais absolument. Donc justement, un film, c'est la construction d'un sens, c'est un rapport au spectateur, un rapport qui considère le spectateur. Moi, je pense que entre les cinéastes, certains exploitants de salles indépendants, comme Bruno à Grenoble et plein d'autres, il y a plein de gens qui se battent. On fait pas exactement le même métier, mais exploitant, distributeur, cinéaste, on a beaucoup en commun. On a au fond un souci de l'autre, un souci de partager, un souci de d'éveiller le regard. Donc je suis très content que Régine et Bruno soient là pour parce que vous savez, moi j'ai beaucoup plus d'atomes crochus avec eux qu'avec certains cinéastes qui travaillent d'une manière totalement du côté de l'industrie, du côté avec tout ce que ça implique de cynisme aussi.
Eh bien, on continue d'en parler avec vous et avec vos invités dans un instant. Nicolas Philibert, on va écouter Aurel San qui chante « Dis-moi ».
Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'ennui. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je fous rien toute la journée. Je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'alcool. Ça commence par un verre. Et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est les autres. Quand j'essaye de rentrer, ils me poussent à la faute. Pour de vrai, pour de vrai. 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 S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je délaisse le reste. J'arrive plus à penser, donc il faut que je décompresse. Mais je vais beaucoup trop loin, je contrôle plus rien, y'a plus de gentillesse. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est la peur. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'ego. Il me pousse à séduire, à posséder les choses. Pour de vrai, pour de vrai. 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 S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. 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 Dis-moi, dis-moi, dis-moi.
Atelier sur France Inter.
Régine Vial, distributrice, il y a quelque chose, je trouve, je le disais à l'instant en écoutant Aurel San et Nicolas Philibert, d'assez fraternel entre vous. Est-ce que vous êtes un peu, et pardon du terme, mais la mère des auteurs de votre société de production et de distribution, Les Films du Losange?
Non, la mère, je ne sais pas, mais ce que j'aime, je pense, être la compagne. J'aime bien ce mot, être compagnon de voyage, compagnon des films, des réalisateurs. Et je trouve que je me sens très compagne de Nicolas, du moment où il me parle du film.
À partir de quel moment il vous parle du film qu'il veut faire ou qu'il est en train de faire?
Quand il a l'idée, je me rappelle La Maison de la Radio, je trouvais que c'était une magnifique idée.
Quelle était l'idée d'ailleurs?
D'imaginaire dans la radio, donc je trouvais que c'était beau d'aller chercher des images pour mettre sur ce que les spectateurs entendent. Il y a une part d'imaginaire incroyable dans la radio, donc Nicolas m'en a parlé au début. Il filme, toujours très modestement, c'est très beau, il met du temps dans ses tournages. Moi, je ne suis pas sa productrice, je suis la distributrice, mais je pense que je suis une oreille qui écoute, qui encourage aussi quand des fois c'est difficile ou que Nicolas peut avoir des doutes ou des inquiétudes ou des difficultés. Et essayer d'être là pour être son compagnon quoi, de film. Et puis, j'aime beaucoup ce moment du montage où lui a monté le film avec beaucoup de patience, beaucoup de connaissances absolument parfaites de son œuvre. Et ça, c'est de ses scènes, de ce qu'il a tourné, de son matériel. C'est merveilleux. Et je découvre le film la première fois et cet échange qu'on a ensemble. Et puis ensuite, on est compagnons sur chaque étape, sur l'affiche, sur la bande-annonce, sur le dossier de presse.
Un auteur de documentaire, et Nicolas Philibert, c'est donc quelqu'un qui accompagne. D'abord,
c'est quelqu'un en tout cas qui a. J'ai le souci de l'après, de ce que je vais laisser derrière moi. Faire un film documentaire consiste bien souvent à propulser des gens de l'ombre vers la lumière. Ce film de chaque instant, c'est un film dans lequel j'ai porté un peu de lumière vers des gens qui sont éternellement dans l'ombre, parfois méprisés, etc. Mais c'est pas le tout de pousser les gens dans la lumière. Ça peut être difficile parce que une fois le film fini, les gens vont retourner à leur travail.
Alors qu'est-ce que vous leur dites justement avant le tournage? Que peut-être ils seront regardés, connus, interpellés et qu'il faudra vivre avec ça?
Bon, j'essaie de faire comprendre qu'un film, c'est pas chercher à en faire des stars. Il s'agit pas de ça. Il s'agit de créer un espace dans lequel les personnes que je sollicite auront envie de jouer le jeu, d'être avec moi, de participer à l'aventure en question, de témoigner. Et dans ce film en particulier, la troisième partie du film montre des étudiants qui reviennent de stage et qui se confient, qui confient leurs questions, leurs doutes, leurs difficultés, leurs angoisses. Ils déposent un peu leur fardeau, oui. Ils partagent leurs difficultés avec leurs référents.
Bah d'ailleurs, on va en écouter une.
Ils viennent pourquoi les patients dans le service où vous étiez?
Bah la plupart c'était pour traiter le cancer. Il y en avait beaucoup qui étaient en fin de vie aussi.
D'accord. Et ça, vous l'avez vécu comment?
C'était dur. Parce que, voilà, c'était pendant les 5 semaines, j'ai pu voir au moins 5-6 personnes décédées. Ouais. Au début, j'ai eu du mal à en parler. Pour moi, la mort, c'était un peu dur à l'affronter.
C'est normal, hein. On a tous des mécanismes de défense. C'est pas facile de se livrer sur cette chose-là. Mm. C'est des questions d'ailleurs centrales à l'hôpital. Hein. Mm. Ouais. Vous êtes autorisée à pleurer quand vous avez envie de pleurer ou...
Oui, bien sûr.
Parce que c'est vrai qu'en tant que stagiaire, parfois on ne s'autorise pas à craquer parce qu'on se dit si je veux rentrer dans la profession, il faut que je tienne.
Bah, en fait, moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui va pleurer devant une personne. Et c'est vrai que quand c'est professionnel, enfin en métier, tout ça, c'est encore moins.
Encore moins facile d'en parler.
Voilà.
Ça fait du bien d'entendre ça. On se dit qu'ils sont bien encadrés, nos élèves infirmiers, et que ben, on les tient par la main pour découvrir l'humain.
Oui, j'ai eu la chance, en tournant dans cet institut de formation à Montreuil, de trouver là une équipe pédagogique très impliquée, très engagée, où les référents, les référentes ne regardent pas les étudiants, leurs étudiants de haut comme ça, mais...
Il y a de la bienveillance.
Sont à la même hauteur. Ce sont tous et toutes des anciens infirmiers, des gens qui sont passés par là, qui savent ce que c'est, qui ont traversé ces difficultés et qui se mettent au service des futurs soignants pour les aider à leur tour à se confronter à leurs questions, à leurs doutes. Et vous me parliez d'accompagner. Faire un documentaire, c'est accompagner.
Oui.
C'est en tout cas être là, être avec. C'est en tout cas essayer de faire comprendre aux personnes que je sollicite que je suis pas là pour les juger. Je suis là pour essayer de... Mon travail consiste à, au fond, stimuler un peu leur désir d'être dans le film. Ça va pas de soi quand on a vécu un stage qui s'est mal passé. D'accepter de le raconter devant une caméra. Mon travail consiste à construire de la confiance. Je dis bien construire parce que la confiance, c'est pas quelque chose qui se décrète. Et pour ces entretiens, je disais toujours aux étudiants, si vous êtes d'accord, on va filmer, mais on partira avant la fin. Pour que vous puissiez avoir un moment avec votre référente, sans nous, et que vous puissiez dire ce qui ne nous regarde pas. Il y a certainement des choses que vous avez envie de dire et qui ne nous regardent pas.
Et vous partiez de fait ?
Et on partait systématiquement 10 minutes, un quart d'heure avant la fin de l'entretien.
Je suis en train de penser à une phrase du grand photographe Henri Cartier-Bresson. Il disait « Le photographe est un voleur. Voler, oui, mais pour donner. » Et j'ai l'impression, vous, que l'auteur de documentaire que vous êtes ne vole pas et n'a pas l'intention de voler. C'est autre chose que vous cherchez.
Enfin... Il y a toujours une part de rapt quand on filme quelqu'un. Il y a toujours cette dimension-là. Et ces jeunes femmes, certaines d'entre elles, qui se sont effondrées en larmes devant la caméra parce que le stage qu'elles racontaient s'est mal passé. Je pense à Sabrina, une étudiante qui est en larmes. Elle a été méprisée du début à la fin de son stage.
J'étais tellement mal pendant ce stage que j'ai vécu une hâte que ça se finisse, qu'ils me mettent les croix où ils veulent et que...
Alors vous étiez mal, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez mal?
Bah déjà, dès le début, à me faire des... Je sais que je suis qu'en première année, que j'ai des défauts, mais... Enfin, voilà, c'est...
Je filme ça, je suis pas très à l'aise moi-même au moment où je le filme. Je suis un peu embarrassé au moment du montage. Est-ce que je peux mettre ça dans le film? Est-ce que ça va pas se retourner contre elle, etc. Et quand elle a découvert le film, bien sûr, j'étais un tout petit peu inquiet de sa réaction. Elle a été magnifique, elle m'a dit mais c'est important, ce mépris que rencontrent certains étudiants au cours de leur stage, c'est assez fréquent et mon témoignage vaut pour tout le monde, vaut pour toutes les autres. Voilà, chapeau.
Vous avez souvent filmé le groupe, on pense bien sûr à votre grand succès, hein, où au moins 2 millions de personnes ont vu ce film qui était Être et Avoir au début des années 2000, quand vous plantez votre caméra dans une école dans un village d'Auvergne. On pense à la Maison de la Radio, c'est aussi filmer le collectif que de filmer les salariés de la Maison de la Radio à Paris, et puis ses élèves infirmiers et infirmières. Mais vous avez aussi filmé à plusieurs reprises un alpiniste qui est Christophe Profi, qui a réalisé des choses incroyables hein, il y a un certain nombre d'années. Et puis, il y avait ce très beau film de 87, Trilogie pour un homme seul. Alors, pour accompagner cette évocation, j'ai voulu qu'on entende Jean-Louis Murat quand, au début des années 90, il chantait « Col de la Croix-Moran ».
Comme un lichen gris sur le flanc d'un rocher, comme un loup sous la voie lactée, je sens monter en moi un sentiment profond d'abandon. Par mon âme et mon sang, col de la croix. vraiment, je te garderai. Je te garderai. Quand un bruit abattu, les giboulées se raient, je cherche ton nom. Oh, je meurs, mais je sais que tous les éperviers sur mon âme veilleront. Par mon âme et mon sang, col de la croix mourant, je te garderai. Je te garderai. Pour ce monde oublié, ce royaume enneigé, j'éprouve un sentiment profond. Un sentiment si lourd qu'il m'enterre, mon amour. Je te garderai. Je te garderai.
J'aurais voulu qu'avant qu'on se quitte là, on parle de votre différent et même de votre bagarre de la récréation pour savoir ce qu'est-ce qu'elle veut dire et pour qu'on en parle, pour que ça ne se reproduise pas, parce que c'est tout à fait inutile. Hein. Vous êtes dans le même cours, vous êtes ensemble, et vous, on n'est pas très nombreux et vous trouvez encore le moyen de vous bagarrer parce que vous êtes bagarré un petit moment quand même. Qu'est-ce qu'il y en passe?
Moi, j'ai lâché. Je l'avais lâché, si vous voulez lâcher, il lâchait. Puis voilà, après, il n'a pas voulu lâcher.
Pourquoi tu voulais pas lâcher, toi? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête pour que tu ne veuilles pas lâcher? Tu voulais lui montrer que tu étais aussi fort que lui?
Oui.
Mais c'est sûrement vrai, non? Vous avez le même âge, vous avez la même taille, vous êtes forts tous les deux. Vous avez voulu vous montrer que vous étiez forts tous les deux. Voilà. Mais est-ce qu'il est nécessaire qu'il y en ait un qui gagne?
Non.
Ça sert à rien. Non? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça fait quelques jours que ça dure, ça, hein? Alors d'où ça vient, ça?
Qu'elle m'insulte.
Tu t'insultes? Bon. Alors tu vois, Julien, apparemment, c'est ce que tu dis en parole qui est plus grave pour lui que ce que tu peux faire avec ta force. Pour lui, c'est très important. Il se sent pas bien quand tu dis des trucs comme ça. Bon, est-ce qu'on peut l'arrêter, ça?
Un extrait, vous l'avez reconnu, de Être et Avoir, ce grand succès de 2002. Vous étiez déjà là à Régine Vianne en tant que distributrice. Je rappelle d'ailleurs que distribuer un film, c'est de le mettre à la portée des spectateurs. Pourquoi cet extrait-là me bouleverse particulièrement?
Je pense que c'est un extrait qui montre cette capacité que Nicolas a de faire parler Et je trouve que c'est extrêmement touchant d'entendre cet instituteur qui prend le temps de parler avec ses élèves de cette situation et qui montre à quel point, derrière cette scène, le dialogue, le fait de communiquer, de parler, permet de se comprendre, de s'écouter, de faire prendre conscience aussi à ses enfants de la nécessité du vivre ensemble, de ne pas s'insulter, de refuser la violence, que la violence ne mène à rien. Donc, mais je dois dire aussi que je pense au Pays des Sourds, par exemple, qui est aussi un film que nous montrons beaucoup aux enfants. Le Pays des Sourds parle beaucoup de la différence. Cette scène que vous avez montrée de Être et Avoir, ces images que j'ai du Pays des Sourds, que nous montrons vraiment régulièrement aux enfants, ces films-là n'ont pas pris une ride. Ils ont la même actualité, la même force, et ils s'adressent au public de la même façon. Et ça, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire dans l'œuvre de Nicolas Philibert.
92, Le Pays des Sourds, Nicolas Philibert, ce monde du silence que vous mettez à l'écran. Et puis ces enfants bruyants, vivants, pleurant, apprenant, riant, jouant. 10 ans plus tard, 2002, succès phénoménal. Vous rencontrez le succès à 51 ans. Qu'est-ce qui se passe avec ce film? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et est-ce que le cinéaste apprend quelque chose et va changer ensuite quelque chose dans sa façon de travailler? Est-ce que c'est une date clé 2002 pour Philibert?
J'en suis pas sûr. Être et Avoir, c'est un succès absolument inattendu.
Je crois qu'un documentaire n'avait jamais atteint 2 millions.
Peut-être à l'exception de films de documentaires animaliers. Mais je ne sais pas très bien l'analyser. Je crois quand même que ce que donne à voir le film, c'est des enfants qui sont extrêmement touchants, comme le petit Jojo, pétillant et malicieux.
J'ai déjà compté jusqu'à 6.
Jusqu'à 6.
Après 5, il y a 6.
Et après 6?
Après 6, il y a 7.
Mais on l'a pas encore eu.
Puis après 7, il y a 6. Ah, après 7, il y a 8.
Il y a 8.
D'autres nous touchent parce qu'ils sont au contraire plus secrets, renfermés, plus introvertis. Je pense à Nathalie qui était la plus âgée, elle avait 11 ans, elle était si apeurée, si fragile, si... Olivier, un garçon qui est secoué de larmes assez souvent.
Ils sont encore dans votre mémoire.
Bien sûr, et il y en a d'ailleurs que je continue à voir. Je pense en particulier aux enfants, aux gamins du Pays des Sourds qui ont maintenant dans la trentaine.
Et les enfants d'Être et Avoir?
Non, ça s'est pas poursuivi, mais bon, c'est comme ça.
Parce que la suite a été compliquée, vous avez eu des procès que vous n'avez pas perdus d'ailleurs, que ce soit l'instituteur, que ce soit des parents d'élèves, ça a été très lourd pour vous ensuite. Est-ce que ça a cassé justement un lien avec ces enfants-là et avec les habitants de ce village d'Auvergne?
Ça a cassé le lien avec certains parents. Et les enfants, je dirais, leurs enfants ont été un peu, du coup, victimes de l'attitude de leurs parents, au fond, et de l'instituteur. Mais aujourd'hui, c'est un peu loin. Et puis, c'est vrai que j'ai eu à cœur de tourner cette page. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce film n'a pas entamé ma manière de faire des films, c'est-à-dire un cinéma qui repose en grande partie sur la rencontre. Et on sait tous que les vraies rencontres nous font prendre des risques quand on rencontre des gens, on ne sait pas toujours qui ils sont. Et en l'occurrence, au moment du tournage de ce film, j'ai découvert chez cet instituteur des facettes que je n'avais absolument pas vues pendant le tournage. On s'est battu, ça a été long, mais on s'est battu, je dirais, pour nous et pour l'ensemble du documentaire. Et la justice a bien compris qu'il n'était pas question tout d'un coup de considérer ceux que l'on filme comme les co-auteurs d'un film.
Oui, c'est ça, il revendiquait le fait d'être co-auteur de ce film, voilà. En plus d'un droit à l'image demandé, qu'il voilà. N'a pas obtenu.
En disant, mais quand je dis à un enfant, ça fait combien, 2 fois 3, je suis l'auteur de mes paroles. En effet, si on veut, mais c'est d'abord un enseignant qui, je dirais, exerçait son métier dans le cadre de la République. C'est pas lui qui a inventé les programmes scolaires. Voilà, ça peut pas exister, cette chose-là.
Et le droit l'a dit et redéfini.
Le droit nous a totalement donné raison, grâce à quoi le documentaire peut continuer à se faire en France.
Vous êtes un observateur, Nicolas Philibert, vous écoutez, vous observez les paroles, les gestes, les corps, nos corps qui n'arrêtent pas de parler, même quand il n'y a pas de parole. On peut observer ce langage dans de nombreux films de Nicolas Philibert, qui sont d'ailleurs réunis dans un coffret aujourd'hui. Votre caméra se pose, il n'y a pas forcément besoin de mots pour comprendre la scène et ce qui se joue. Elsa Denac a rencontré Stéphane Bunard, il est synergologue. Est-ce que vous savez ce que c'est que la synergologie ?
Absolument pas.
C'est l'étude de la communication non verbale, de tout ce que nos corps disent sans avoir à passer par notre bouche et nos mots, c'est intéressant. Alors Elsa Denac est allée avec lui du côté de la place de la République à Paris et ils ont observé des corps d'hommes, de femmes, d'enfants.
La synergologie, ça vient du Québec et l'étymologie, c'est sun ergos logos, l'étude du corps en mouvement.
Place de la République, des gens passent, des corps passent, des voitures passent, des bus passent.
Ce qui est intéressant dans le petit groupe qui est à côté de nous, par exemple, c'est que le monsieur là, a les mains entre les cuisses écartées et avec la main droite masque son pouce gauche. Le pouce, de façon générale, c'est le jeu de l'implication. On perçoit qu'il y a un manque d'implication dans le discours, dans l'échange, dans les propos qui sont tenus. Ce qui est validé par le fait que le regard va un coup à gauche, un coup à droite. Donc il n'y a pas la volonté vraiment d'être là, d'être présent à l'échange.
Un vieil homme passe, main croisée sur le torse, un autre main dans les poches.
À quoi ça sert les gestes ? D'abord, il y a des études qui ont montré en psychologie que quand on attache les mains de quelqu'un dans le dos, eh bien, les mots viennent plus difficilement. C'est-à-dire que on fait des gestes, en fait, qui sont des gestes projectifs, qui projettent nos états d'âme. Quand on dit quelque chose et qu'on n'est pas raccord intellectuellement ou émotionnellement à ce qu'on raconte, ou alors on ne sait pas trouver les mots, ou on ne veut pas trouver réellement les mots, eh bien, le corps vient rectifier, amender, corriger ce qu'on dit. Parce que si les mots sont travaillés, le corps, lui, dit toujours la vérité. C'est comme si on était finalement acculé, et c'est une bonne nouvelle à être authentique.
Il y a des corps qui regardent le sol.
On va voir quelqu'un qui se gratte dans le cou. C'est la prise de parole en situation délicate. Alors d'abord, il faut être prudent. Il peut y avoir des raisons objectives de se gratter. Mais on va chercher à comprendre s'il n'y a pas une raison plus signifiante de se gratter. Et cette raison signifiante, ça pourrait être que, par exemple, la personne, elle a des choses à dire dans un contexte difficile. Si on est à l'école, on peut avoir ça en voyant un gamin qui a des problèmes à résoudre ou qui ne sait pas forcément sa leçon.
Monsieur.
Oui, c'est très bien, Laetitia, continue. Mais là, tu as oublié de remonter jusqu'au point.
Quand la réalité, elle est dans être à voir, par exemple, sur les liens très jolis qui se nouent entre les enfants et les instituteurs, et ben, le langage corporel des enfants produit de l'information, donne de l'information. Ça permet de voir si le gamin comprend bien, de voir si là il a plus de difficultés, de vérifier finalement l'impact de mon enseignement et d'apporter peut-être en fonction de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, le soutien, l'encouragement ou la parole qui va être plus efficace, quoi, plus pertinente. Je pense par exemple à ce qu'on appelle le retrait labial, les lèvres rentrées, quand l'enfant a dit une bêtise ou un gros mot, et puis tout d'un coup les lèvres rentrent dans la bouche comme pour aller récupérer les mots qui sont sortis trop vite. Comment je peux travailler mes capacités d'attention, d'observation et d'écoute, et comme ça développer aussi mes capacités empathiques?
Mais là ça me gratte la narine gauche.
Je serais plus inquiet si vous grattiez le nez côté droit, ça voudrait dire que tout ce que je vous dis vous dérange, ou vous remettez un petit peu en cause mon propos, donc là tout va bien, voilà. Pourquoi est-ce qu'on se gratte ? Quelqu'un n'a pas envie d'être à l'endroit où il est, et il ne peut pas partir pour des raisons X et Y. Donc le corps qui est là pour l'aider va lui envoyer sous la forme d'un influx nerveux une micro-démangeaison, un endroit qui est logique dans l'évolution de l'espèce, pour l'aider à fuir. On va se gratter la jambe, le mollet, parce que voilà, historiquement, archaïquement, ça nous sert à prendre la fuite.
Et tout ça, c'est inconscient.
Les gestes qui nous intéressent en synergologie et qu'on étudie sont des gestes qui sont faits de façon universelle et non consciente.
En fait, vous êtes aussi synergologue, Nicolas Philibert. Vous observez les corps et les mots qui ne sortent pas toujours ou qui ne peuvent pas physiquement sortir, et la gêne dans le corps, et les larmes qui coulent.
Oui, bien sûr, le cinéma, c'est des corps, mais de là à interpréter comme ça, voilà, moi ce que j'observe surtout quand je me promène dans Paris aujourd'hui, quand je marche dans Paris, c'est des gens qui ont le nez dans le, devant leur smartphone et qui ne regardent plus les autres.
Ça vous déçoit un peu votre époque ?
Non, je sais pas si je dirais pas que l'époque me déçoit parce que je suis de mon temps et non, je suis pas du tout dans la nostalgie du passé, absolument pas. Non, en revanche, je trouve que l'autre jour j'ai été voir une pièce de Tchekhov au théâtre de la Colline et entre chaque acte, il y avait des changements de décor qui prenaient à peu près une minute dix et la moitié de la salle rallumait son téléphone entre chaque acte et je trouve que là c'est une relation au temps qui est terrible, comme si on pouvait même pas s'autoriser à ne rien faire, laisser résonner ce qu'on vient de voir. Enfin, ça, en revanche, je trouve que on est dans une espèce d'accélération. Ça se voit aussi, et ça, Régine et Bruno le sentent aussi, le sentent bien. Le nombre de films, le turnover des films est de plus en plus grand. Ça devient très compliqué de montrer des films. Mmh. En plus, aujourd'hui, on entend dans le milieu du cinéma, on entend des voix pour dire...
Il y a trop de films. Oui, on va en parler avec vos invités qui sont en duplex de Cannes, Régine Viale et Bruno Thivillier. Je voudrais qu'on écoute l'une de vos musiques de films. Il n'y a pas toujours de musique dans vos films d'ailleurs, mais il y en a parfois. Mm-hmm. Vous pouvez faire appel à des compositeurs. Ouais. Un grand compositeur contemporain, Philippe Hersant, a travaillé plusieurs fois avec vous, notamment dans Un animal des animaux, quand en 94 vous suivez les travaux de rénovation de la galerie de zoologie du Muséum national d'histoire naturelle. On voit ces animaux revivre d'une certaine manière.
Ressusciter.
Et presque s'avancer dans cette magnifique galerie. Et Philippe Hersant signe ça, par exemple. Bruno Thivillier, vous qui dirigez le cinéma Le Méliès à Grenoble, c'est vrai qu'on entend, et d'ailleurs Deneuve le disait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a trop de films en France. Comment réagissez-vous, vous qui êtes là pour nous faire aimer et découvrir le cinéma ?
Je n'abonde pas vraiment sur ce segment de peur qu'il y ait trop de films en France. Notre travail de diffuseur de films, de salles de cinéma et de chercheur de films auprès des distributeurs qui font ce travail-là, c'est précisément de faire des choix et du coup d'assumer ces choix-là. Donc c'est prendre des films et puis en laisser d'autres. Et quand on dit choisir des films, c'est les accompagner le mieux possible. Donc chaque film peut trouver sa place dans les salles de cinéma aujourd'hui. Je pense qu'une bonne diversité de la création doit trouver aussi un bon accueil dans les salles. Et il est nécessaire à chaque fois de laisser la bonne place dans les salles de cinéma pour les films qui ne sont pas égaux entre eux. Évidemment qu'un film cannois qui va avoir un prix ne nécessite pas le même travail d'accompagnement dans une salle qu'un film plus petit, plus peut-être même parfois les films documentaires, on nécessite ce travail d'accompagnement. Mais en tous les cas, pour ce qui me concerne, tous les films qui sont programmés au Méliès sont des films que je vois en amont et que je choisis. Et cette notion-là de choix nous implique, nous incite à faire un vrai travail derrière.
Vous sauriez parler de vos choix? Qu'est-ce que vous privilégiez au Méliès à Grenoble?
Alors, ce sont des films qui ont cette notion de film d'auteur qu'on connaît en France. Ce sont des choix subjectifs, donc je vois énormément de films, évidemment. Et ensuite, ce sont des choix qui portent tant sur la thématique même qui peut être traitée dans un film, notamment du côté du champ documentaire. Et le travail de Nicolas Philibert est vraiment de ce côté-là aussi. Je pense que dans son travail de confrontation au réel, il y a toujours une part de poésie, il y a toujours une part d'humour. Et dans cette révélation-là du réel, il y a cette vraie révélation du côté des spectateurs. Et nous sommes les premiers spectateurs, nous, programmateurs de salles. Et ensuite, nous devons être des bons passeurs auprès des publics.
Régine Vial, il y a trop de films en France?
Moi, je rejoins Bruno. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il n'y a pas trop de films en France. C'est bien qu'une diversité puisse s'affirmer. Parce que dans tous ces films, il y a les futurs grands réalisateurs de demain.
Nicolas Philibert, finalement, le plus inquiet, c'est peut-être vous, l'auteur, aujourd'hui. Parce que j'ai relu pas mal de vos déclarations. Vous évoquez souvent les menaces qui pèsent sur la circulation des œuvres les plus singulières. Vous parlez de la dérobade des diffuseurs, de l'engorgement croissant des films dans les salles. Ça devient de plus en plus difficile de faire votre métier?
J'ai envie de dire que chaque film, c'est pour moi un pari nouveau. Je ne dis pas que je redémarre à zéro chaque fois, parce que j'ai quand même petit à petit, peu à peu, accumulé une certaine expérience, mais mes films ne reposent pas sur le savoir-faire. Je dis souvent, ni vouloir dire, ni savoir-faire. Ni vouloir dire, parce que quand l'intention est trop visible, trop appuyée, trop forte, quand un film prétend délivrer un message, etc., souvent le film passe à côté du cinéma. Mais ni savoir-faire non plus, parce que faire un film à partir d'un savoir-faire, moi ça m'intéresse pas.
Mais moi je parlais vraiment des conditions d'exercice de votre métier.
Alors c'est vrai que aujourd'hui, je dirais, on a le sentiment, tous, producteurs, distributeurs, cinéastes, on a le sentiment qu'on est à un moment charnière. Avec l'arrivée des plateformes Netflix, Amazon, Apple et compagnie, pour qui il n'y a pas la moindre réglementation. Les partenaires historiques du cinéma depuis 40 ans, les lois qui encadraient, qui favorisaient l'aide du cinéma par les télévisions sont aujourd'hui fragilisées, menacées. La redevance, on est en train de dire qu'il va peut-être, faudrait peut-être la supprimer, etc. Donc,
est-ce que c'est le documentaire qui sera le premier touché par ces restrictions?
Pas forcément, parce que c'est infiniment plus compliqué que ça. Il y a des documentaires qui se font avec beaucoup d'argent. Et à l'inverse, il y a des films de fiction extrêmement modestes, extrêmement fragiles, qui se font avec des moyens très restreints. Mais ceux qui sont les tenants de cette idée qu'il y a trop de films voudraient voir disparaître, en effet, des petits films fragiles qui se font sans acteurs bankable, etc. S'il y a des films en trop, est-ce que c'est pas... ceux qui sont faits d'une manière totalement industrielle, avec des gens qui ne sont même pas des cinéastes, on applique des recettes, etc., et on voit les remakes du remake, etc., ces films qui se font un peu en série.
Donc une absence d'invention.
Et surtout, le désir de faire rentrer de l'argent. Films qui sortent souvent sur tellement d'écrans qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les autres. Or, ce qui est tout à fait exceptionnel chez nous, c'est que on a inventé un système dans l'après-guerre qui maintient et qui favorise la plus belle diversité du cinéma qui soit.
Que prenait à l'instant Bruno Thivillier, que je remercie d'avoir été votre invité. Portez-vous bien, monsieur le patron du cinéma Le Méliès à Grenoble.
Oui, merci beaucoup à vous et je vous souhaite très bon vent, Nicolas.
Merci Bruno.
Merci
Régine.
Continuez d'accompagner les films et bonne suite au film du Losange. On se retrouve dans un instant avec d'autres invités, notamment le comédien et réalisateur désormais, Éric Caravaca. A tout de suite, Nicolas Philibert.
Tu filmes, Nicolas ?
Oui.
D'accord. Et pour cette télévision ?
Je ne sais pas très bien dire ce que c'est que le cinéma pour moi. Et d'une certaine manière, il vaut mieux peut-être pas que je le sache, pour continuer à faire des films.
Nicolas Philibert, Le Grand Atelier, la suite avec deux nouveaux invités, une psychologue clinicienne et psychanalyste qui travaille entre autres dans un lieu que vous avez filmé, la clinique psychiatrique de la Borde dans le Loir-et-Cher. Le film s'intitule La Moindre des Choses. Bonjour Linda De Zitter.
Bonjour.
Bienvenue dans Le Grand Atelier de Nicolas Philibert.
Merci.
Et puis un comédien qui est aussi réalisateur, Éric Caravaca. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez signé une fiction, Le Passager, et un documentaire Carré 35. On vous entendait à l'instant, Nicolas Philibert, dire... Je ne sais pas bien dire ce que c'est que le cinéma. Qu'est-ce que vous ne savez pas formuler exactement ?
Il m'arrive de me poser la question, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire d'un documentaire, c'est du cinéma ? Ce n'est pas évident. Pour beaucoup de gens, le documentaire, ce n'est pas vraiment du cinéma. C'est un genre mineur. Bref. Et quand il m'arrive de me poser la question, au fond, j'ai une réponse, mais elle est certainement un peu courte et sûrement très, très personnelle. Un documentaire, c'est du cinéma quand le film est tout d'un coup plus grand que son sujet. Quand il y a quelque chose qui le dépasse, qui nous élève, qui nous grandit, qui... Le film sort du carcan dans lequel l'enfermer son sujet, il y a quelque chose tout d'un coup d'universel.
Donc ça, c'est le public qui décide que c'est un film, c'est pas l'auteur.
L'auteur, c'est pas toujours très bien. L'auteur, c'est pas toujours ce qu'il fait. Il y a des auteurs qui prétendent tout maîtriser, tout savoir, mais...
C'est comme le mot documentariste que vous n'aimez pas employer. Comme s'il vous faisait un peu peur.
C'est pas qu'il me fait peur, je trouve que c'est un mot un peu enfermant. Et je trouve que le cinéma, c'est toujours quelque chose qui associe le réel et l'imaginaire, de multiples façons. Et je dis souvent du documentaire que c'est jamais qu'une autre façon de faire de la fiction. Parce que filmer le réel, c'est toujours le réinventer. C'est pas seulement le décrire, c'est pas seulement le en donner une copie. Pas du tout. C'est le retravailler, c'est le réinventer, c'est le réécrire.
Ça vous parle, Éric Caravaca, vous qui maintenant, depuis quelques années, êtes cinéaste aussi, en plus d'être comédien de théâtre et de cinéma.
Oui. Bah, on voit bien quand on voit les films de Nicolas, il pose sa caméra quelque part et on sent que. Au début, il ne sait pas. Enfin, il connaît son sujet, il sait ce qu'il a envie de filmer, mais c'est vrai que, comment dire, l'inconnu, c'est important. Je crois je pense que rares sont les réalisateurs qui savent vraiment quel sujet ils sont en train de traiter quand ils réalisent un film. On croit toujours faire un film en traitant ce sujet-là, et finalement, on s'aperçoit une fois le film fini que c'est pas tout à fait ce qui est en dessous du film, comme une source qui coulerait comme ça en dessous, c'est tout à fait autre chose que ce qu'ils avaient prévu.
C'est votre cas avec Carré 35. Hein. On va en parler dans un instant. Quand vous commencez une enquête familiale sur la disparition de votre petite sœur, quelque chose d'autre arrive et vous tirez comme ça une bobine. Et plein de choses comme ça sont à l'écran que vous n'attendiez certainement pas. C'est passionnant. On va en parler avec vous, Éric Caravaca, avec notre psychologue et psychanalyste, Linda De Zitter aussi. On va écouter un peu de musique. D'abord, Nicolas Philibert, je sais que vous aimez la langue espagnole. Je voudrais savoir pourquoi.
C'est une question de sonorité, c'est très musical, c'est une langue très chantante.
Ce sont pas vos racines?
Non, c'est pas mes racines. J'ai fait un peu d'espagnol au lycée.
Rosalia, vous la connaissez, la chanteuse espagnole Rosalia? Vous pouvez dire non, hein?
Anna Rosalia, non.
Non, Rosalia tout court.
Non.
C'est une vedette actuellement en Espagne et elle chante ici avec l'anglais James Blake, alors chacun dans sa langue. Et la chanson, c'est Barefoot in the Park.
Agujerito del cielo, di tan mampo.
I call off the chase. Who needs paths? I see you every day.
Never in the dark, you start.
Nicolas Philibert, vous avez commencé, on en parlait, comme assistant au cinéma. Vous avez fait plusieurs métiers, si je puis dire, autour de René Alliot. Mm-hmm. Grand cinéaste, René Alliot, il a réalisé La vieille dame indigne, Rue de journée pour la reine, avec Signoret, entre autres, et puis moi, Pierre Rivière. Qu'est-ce qu'on apprenait à côté d'un René Alliot?
J'ai surtout appris que la liberté artistique, c'est quelque chose qu'il faut perpétuellement reconquérir. Je n'ai pas retenu de lui tellement l'art de la mise en scène, parce que je pense que c'est à chaque cinéaste de trouver sa propre grammaire, sa propre logique, son propre langage. Mais j'ai appris peut-être d'abord à prendre confiance en moi. C'est quelqu'un qui m'a donné confiance en moi. Et j'ai surtout appris et compris, en le regardant travailler, que les choses vous tombent pas dans le bec. Et si on veut faire, pour peu qu'on veuille faire un cinéma qui sort des sentiers battus, qui prend un peu des risques, il faut se battre. Il faut se battre pour ça.
À une époque, il tourne un texte, si je puis dire, de Michel Foucault, « Moi, Pierre Rivière », l'histoire d'un paysan qui assassine sa mère, sa sœur, son frère. Il tourne avec quelques acteurs professionnels, mais aussi beaucoup d'amateurs. Vous êtes là, je crois, comme assistant. Et puis, vous revenez sur les lieux du tournage. Ça donne « Retour en Normandie » en 2006, 20 ans après. Pourquoi vous souhaitiez revoir et réinterroger peut-être aussi ces acteurs paysans?
Le tournage de « Moi, Pierre Rivière », sur lequel j'étais assistant, a été une expérience de cinéma, mais au-delà, une expérience humaine très forte, très, très riche. En effet, René Alliot avait choisi de tourner ce film sur les lieux mêmes du crime. Le crime se passe en 1835, et donc en 1975, Alliot choisit de tourner sur les lieux à quelques kilomètres près, avec, vous l'avez dit, dans les rôles principaux, dans les rôles de paysans, non pas des comédiens, mais des gens de la région. Et puisque j'étais l'un des deux assistants, j'ai passé 2 mois et demi à aller de ferme en ferme pour essayer de convaincre des gens qui étaient à des années-lumière de tout ça, de jouer dans un film. Et ça va pas de soi, aujourd'hui tout le monde veut faire du cinéma, mais imaginez, en Basse-Normandie en 75, c'était pas gagné du tout. Il a fallu, pour l'autre assistant Gérard Mordillat et moi, on a dû faire un travail de conviction, on a dû faire partager un désir auprès de gens, oui, qui n'étaient pas concernés, qui avaient des vaches, des champs, etc., qui étaient tout, loin de tout ça, les convaincre d'enfiler un costume, d'apprendre un rôle.
C'est souvent ça aussi le métier de documentariste, pardon j'emploie ce mot, de convaincre des personnes de passer devant la caméra et d'être elles-mêmes.
Oui.
Ou tenter de l'être.
J'essaie de, évidemment, de convaincre, mais je le dis souvent, je force pas les choses, je force, si les gens veulent pas, ça les regarde et je fais avec ce qu'on me donne, je le dis souvent comme ça, mais voilà, cette expérience avec Alliot a été très, très, très forte, très belle pour tout le monde, pour les Normands comme pour les jeunes Parisiens que nous étions.
On va l'écouter, René Alliot, en 76, au micro de Paul Ajac sur France Inter.
J'ai pas le sentiment d'avoir fait travailler les gens dans le travail d'interprétation comme ça, en téléguidant des choses ou en les manipulant ou en leur... Et alors donc on avait ça en commun, c'était un amour de la chose paysanne, eux parce qu'ils étaient sensibles au fait que pour faire un film dont c'était le sujet fondamental finalement, l'humus, ben c'est à eux qu'on venait le demander. Et je n'ai pas travaillé autrement avec eux que j'aurais travaillé avec des acteurs professionnels avec qui j'aurais monté un Shakespeare et qui auraient eu à interpréter, à créer des personnages, à les faire exister. Un des effets que je crois indéniable, c'est d'avoir montré à ceux qui faisaient le film que faire du cinéma, c'est pas l'affaire de gens exceptionnels, rares, différents de nous. mais que l'imagination, par exemple, qu'on doit mettre en œuvre pour jouer, pour inventer, pour être artiste, ben, elle est un trésor commun à chacun de nous. Elle existe dans chaque individu, mais aujourd'hui, elle est considérablement chloroformée.
Tiens, je vais demander la réaction de Linda De Zitter, psychologue clinicienne et psychanalyste. À la clinique de la Borde, chaque année, on fait jouer les patients et les personnes qui les soignent. Le film La moindre des choses de Nicolas Philibert en témoigne, on va avoir l'occasion d'en parler, mais comment vous entendez ces propos, l'idée que l'imagination est en chacun de nous et qu'au fond, elle peut sortir par le jeu, J-E-U, cette imagination?
Je crois que c'est assez essentiel de notre dimension humaine, qu'on soit en souffrance ou pas, donc ça résonne très fort quand vous faites le lien avec le spectacle annuel. Par exemple, c'est une occasion pour traverser ensemble l'été, là où plusieurs personnes sont en vacances et les personnes qui sont toujours dans cet endroit-là ne prennent pas forcément vacances de leur souffrance. Et c'est donc de trouver un praticable avec, en effet, le support d'un texte, parfois, ça peut être de la musique aussi, où on va pouvoir se glisser dans la peau d'un autre. Et je crois que humainement, ce jeu des allers-retours est très enrichissant pour tout le monde. Ça jaillit du côté de l'artistique, de l'esthétique, mais aussi du côté du thérapeutique. Mmh. Ça peut apparaître, en tout cas.
Éric Caravaca, c'est la grande question de l'art. Est-ce que ça soigne d'être comédien, de dire les mots des autres?
Oui, je pense que c'est important. Et puis ça lave aussi, parce que dire les mots des autres, c'est s'oublier soi-même. En fait, tout le monde dit, ou pense dans l'imaginaire collectif, que l'acteur, c'est celui qui se met en avant, etc. Moi, j'ai jamais rien aimé tant qu'un acteur qui disparaît.
Voici un chanteur qui a joué dans une dizaine de films. C'est Arnaud, vous savez, le Tom Waits belge. Il vient d'écrire une nouvelle chanson, Au stand, bonsoir.
On se promet comme tous les soirs, on se dit rien, on va de bar en bar, ça rime à rien, comme tous les soirs, je suis seul avec toi, au stand. Bonsoir, Spéliade allume la digue, comme tous les soirs, aux couleurs nostalgie, aux couleurs désespoir, il nous peint les marées, le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir. De bière en bière, d'histoire en histoire. Salut Maria, comme tous les soirs. C'est pas grave demain, sera un autre soir. Oh, c'est pas grave demain. Boston, bonsoir.
Le Grand Atelier, Vincent Josse sur France Inter.
Arnaud, qui est un flamand comme vous, Linda Desiter, non, je me trompe
oui,
pas.
Oui, oui, oui.
Je voudrais qu'on évoque ce film Carré 35, ce documentaire sur, on va dire, pour raccourcir, sur votre sœur morte, Christine, morte avant votre naissance, et dont vous et votre frère avez découvert l'existence très tardivement. C'est une enquête familiale sur cette disparition. Et au début du film, vous interrogez votre mère sur la mort de Christine.
Et quand tu l'as vue morte, elle était où, Christine ?
Dans son lit. Sa tête, au lieu d'être de mon côté, elle était comme ça.
Tu l'as trouvée dans sa chambre ?
Dans sa chambre, dans son petit lit.
Et elle était morte depuis combien de temps ?
Elle était morte dans la nuit. Le cœur a cédé, quoi.
Et bizarrement, tu n'as pas gardé de photos ?
Je n'ai pas voulu de photos. J'ai eu la photo de Christine sur sa tombe, puisqu'elle était blanche avec des petits cailloux blancs. Et après, je les ai brûlés. J'ai brûlé ses films, j'ai tout brûlé.
Et tu n'as pas gardé une seule photo d'elle ?
J'ai tout brûlé. J'avais une caméra pour elle. J'ai même la caméra, je l'ai offerte à Véronique.
C'est quand même étrange de tout brûler. Je ne sais pas, quand on a un enfant, on garde toujours une photo.
Oui, mais pas moi. J'aime pas aller en arrière. Qu'est-ce que tu veux faire avec une photo ? Pleurer dessus ? On a assez pleuré ma mère.
Ah, c'est beau de vous regarder, écouter cet extrait, parce que nous, il nous émeut encore quand on le réécoute, hein, Linda Desiter. Il y a une force, et même une force de cinéma aussi dans ce moment-là. Et vous souriez tendrement. Mm-hmm. Pourquoi, Éric Caravaca ?
Non, parce que j'écoute cette femme qui est ma mère, et puis j'entends tous les sous-textes que vous n'entendez pas forcément, mais...
Qu'est-ce qu'on devrait entendre, alors, si on savait ?
Non, mais en fait, quand je réécoute ces passages, enfin, j'ai pas l'habitude de revoir beaucoup les films qu'on fait. Je sais pas si on les revoit beaucoup nous-mêmes, mais j'entends tout le non-dit en fait. Et au final, je trouve que c'est ce qui est beau, c'est ce qu'on essaie nous tous, les artistes, de faire entendre. C'est le non-dit, c'est l'occulte, c'est les choses qui ne se voient pas. C'est ça qui.
Comme un psychanalyste.
Oui, je pense. Enfin, quand on veut. Filmer une scène d'amour ou une scène de rupture, on peut très bien filmer deux personnes en train de s'embrasser. Mais intimement, on sait que c'est une rupture. Pourquoi ? C'est la manière de filmer. Comment on filme une rupture ? Comment on filme ou une rencontre aussi, peut-être, avec deux personnes qui s'engueuleraient, qui partiraient et dont on pourrait se dire elles sont complètement amoureuses. Et c'est toujours l'antagonisme ou la complexité des choses qui moi me plaît, quoi.
Linda Desiter, vous êtes d'accord avec cette affirmation, on peut dire, d'Éric Caravaca sur le lien psychanalyste et cinéaste qui essaie de faire émerger une parole qui ne veut pas être dite?
Oui, oui, oui. Et dans le film, dans l'acte cinématographique de Éric, je trouve que ce film révèle une position de nécessité de ta part et comment, comme vous venez de le dire, on ne peut pas forcément changer d'histoire, mais on peut changer de récit. Et les blancs ou les noirs, c'est parfois la même chose, on peut les colorer différemment pour rompre parfois une chaîne qui nous piège dans les aliénations que parfois nous avons choisies nous-mêmes ou ceux qui nous entourent. Et pour pouvoir rompre cette chaîne de répétition, je crois que le film d'Éric témoigne d'un travail de perlaboration, je pense à ce que dit Jean-Houry de la psychiatrie, que parfois ça vaut une transe d'analyse, mais que là, en effet, ce film-là révèle tout un travail analytique que tu as dû faire, qui a donc aussi une dimension de violence, parce qu'il fait acte d'interprétation, pas simplement pour toi, mais pour les tiens, qui n'en sont pas forcément au même point. Mais en tout cas, oui, il y a une, ce sont deux champs qui peuvent voisiner ensemble, le cinéma et la psychanalyse.
Votre enquête, elle a fait aussi bouger votre mère, parce que votre mère ne voulait plus entendre parler de sa petite fille morte. Mmh. D'ailleurs, vous n'étiez pas au courant. Hein. Et on fait ce chemin avec vous et avec elle aussi, parce que vous l'amenez sur la tombe de cette petite fille au Maghreb. Hein.
Oui, oui,
c'est violent, ça, d'emmener sa mère, pas de force, mais de la convaincre et de réussir, y compris à la filmer devant cette tombe. Comment a-t-elle réagi à tout ça, à cette violence que vous lui demandez, et à ce film, Carré 35?
Au final, je crois qu'elle avait envie quand même d'y participer, même si je lui ai laissé le choix. Moi, je ne suis pas non plus quelqu'un de pervers.
Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit?
Je laisse les gens donner ce qu'ils veulent donner, comme disait Nicolas tout à l'heure. S'il y a quelque chose que les gens ne veulent pas donner, je m'arrête là aussi.
C'était quoi les mots d'Éric à sa mère pour lui dire « voilà ce que je veux tourner » ?
Non, mon père, qui était décédé, m'avait promis de m'aider, donc comme il n'était plus là, je lui ai passé le relais, je lui ai dit voilà, c'est à toi maintenant de m'aider un peu. Et elle a accepté, mais je crois qu'elle avait envie d'y aller, et en même temps, elle est restée dans son déni, cette femme, en fait, puisque j'ai réussi à la ramener sur la tombe de sa fille, mais c'est l'histoire d'un double secret. Le deuxième secret, c'était la normalité. Et
la trisomie de votre sœur.
Voilà, et ça, c'est vrai que ma mère n'a jamais voulu le reconnaître, à tel point qu'elle n'a jamais vu le film.
Ah
elle,
oui.
Elle a eu peur de voir le film. Le point positif, c'est que maintenant, elle sait que je sais. Et puis, on en reste là, et c'est retombé aussi dans une sorte de silence.
Ah, il y a à nouveau du non-dit.
Oui, oui, maintenant, c'est... Oui, c'est retombé dans le secret, dans l'univers de cette femme qui, au fond, s'est construite autour de cette fausse vérité qu'elle garde en elle et qui lui permet de continuer à vivre, en fait.
Ce qui est beau aussi dans ce film, au-delà de cette relation d'un fils qui, d'une certaine manière, accouche sa mère sur une vérité qu'elle ne veut pas dire, sur ce déni, il y a aussi, d'une certaine manière, l'histoire coloniale de la France. On n'a pas voulu dire, savoir, revenir sur cette histoire. Ça dit beaucoup de choses, hein, Carré 35, Nicolas Philibert.
Oui, le film, au fond, mais en parallèle, la petite histoire et la grande histoire, ce non-dit, ce déni qui pèse lourdement et d'une manière répétée dans la famille d'Éric, et en même temps, le refus par la France de regarder en face sa propre histoire coloniale, comme une chose qui est balayée. Comme le dit Éric dans le film, on ne parle pas à propos de l'Algérie, on n'emploie pas le mot guerre, on emploie le mot les événements. Une façon de refoulé, là aussi, oui.
C'était son premier documentaire, Éric Caravaca. Comment le cinéaste professionnel, auteur de 12 films, juge-t-il le cinéaste, Éric Caravaca?
Moi, j'ai été bouleversé par ce film. Je suis heureux de savoir que Éric a d'autres projets.
Alors nous, on ne sait pas encore c'est quoi ces projets.
En fait, le documentaire était quelque chose qui m'a toujours bouleversé en même temps que ma découverte du cinéma, je dirais.
Vos grands documentaristes à vous, c'est qui? Alors, il y a bien sûr Philibert, puisque
moi,
vous êtes là.
J'avais des cassettes VHS de Wiseman, de Pardon, de
Frédéric Wiseman, qui vit toujours, bien sûr, et qui fait partie de vos maîtres, à vous aussi.
Le mot maître me va pas. C'est
beau pourtant.
Oui, mais je l'ai dit, c'est à chacun d'inventer son propre cinéma.
Vous n'êtes pas un disciple, vous.
Je suis pas un disciple, mais j'ai une très profonde admiration, évidemment, pour Frédéric Wiseman, son énergie, à presque 90 ans, il continue à faire un film par an, il fait le son de ses films. Imaginez, cet homme, c'est un grand sportif, il perche, il tourne des séquences souvent très longues, des réunions, etc. Et ça demande une habileté, une dextérité, une force, une...
Et lui aussi a filmé des grands corps, des institutions, je pense à l'opéra, à la comédie française, pour ce qui nous concerne en France.
Et puis j'aime son humour, ses yeux qui pétillent, etc. Mais revenons à Éric.
À ses projets notamment. Est-ce que vous voulez encore suivre une piste intime?
Oui, je pense que de toute façon, il faut parler de soi. C'est en parlant de l'intime qu'on arrive
à l'universel.
À l'universel, évidemment. Bon, tout le monde dit ça, mais c'est un lieu commun, mais c'est tellement vrai. En fait, il faut parler de ce qu'on connaît. Moi, c'est le cinéma qui me touche. C'est quand les gens parlent de ce qu'ils connaissent. Après, on peut tout à fait partir aussi dans des fictions, fictionner tout ça. Mais le noyau dur reste quand même quelque chose qui doit être l'expérience de chacun.
Et là, je ne suis pas sûr de ça, moi.
Ah, vous n'êtes pas d'accord, Nicolas
Philibert. Je ne suis pas sûr qu'il faille partir de ce qu'on connaît. Moi, c'est l'inverse. je vais vers ce que je ne connais pas. Je cite souvent Marcel Hanoun, un cinéaste qui n'est plus de ce monde, mais et qui disait « Un cinéaste ne devrait filmer que ce qu'il ne connaît pas ». Et évidemment, faire un film, c'est parler de soi.
Mais arriver vierge devant son sujet ou ses sujets.
Le plus vierge possible.
Ce n'est pas du tout le cas d'Éric Karambaka.
Bah, sur ce sujet-là, en l'occurrence, non, mais... Non mais tout à l'heure on parlait de disparaître. Oui, c'est, je veux dire parler de soi pour parler de soi, c'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça que un acteur qui viendrait jouer Hamlet, s'il se prend pour Hamlet à partir du moment où il rentre en scène, c'est pas très intéressant. On peut très bien partir tout de suite.
Faut qu'il apporte sa part d'Hamlet sur scène. Non, Linda.
Moi, j'ai l'impression que vous parlez de la même chose. Au fond, il s'agit pas d'un savoir constitué, mais nous sommes tous poussés par un savoir insu. Et parfois, le chemin que nous parcourons nous apprend dans l'après-coup, ah tiens, c'est ça qui me gouverne, c'est ça qui me pousse. Et ce que tu racontes, Éric, témoigne de ça. Et toi aussi, Nicolas, avec Être et Avoir, un film sur la séparation, La Maison de la Radio, on peut aussi voir comment la mort peut devenir une matière partie intégrante de la vie et d'une façon assez enjouée. Enfin, toutes ces choses-là, tu ne le sais pas, nous ne le savons pas forcément d'une façon consciente. Oui. Mais nous ne sommes pas maîtres dans notre propre maison. Donc le désir est fait de tellement de choses, tellement de strates, notre arrière-pays. Et ce que vous fabriquez, parfois, vous le révèle dans l'après-coup.
Absolument. Julien Green disait « J'écris des livres pour savoir ce qu'il y a dedans ». Et moi, je pourrais dire un peu la même chose. Je fais des films pour savoir ce qu'il y a dedans.
Je voudrais qu'on écoute une chanson de Piaf. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une chanson sur la folie à l'époque, dans les années 50, où on disait encore les fous, en parlant des patients. Ce qui n'est pas le cas de la clinique psychiatrique de la Borde où on parle et on agit différemment avec les malades. La chanson, c'est « Les blouses blanches », paroles de Michel Rivegauche. Il la connaît, Éric Karambaka. Musique de Marguerite Monnot, chanson réaliste à souhait, très impressionnante dans l'incarnation de Piaf.
Ça fera bientôt 3 années qu'elle est internée, oui, internée avec les fous, avec les fous. C'est à cause de si elle est là, seulement voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater, la vérité. Alors comme elle en a assez de pleurer, de tous ses forces, elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Et à chaque fois, il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches. Elles lui disent non, vous n'êtes pas folle, pas folle, pas folle. Les blouses blanches, elle aussi, elle en a eu une blouse blanche. Ah non, c'était une robe, petite robe blanche, une petite robe blanche avec des fleurs. Il y avait du soleil autour des fleurs, et dans sa main, elle, il y avait une main. Une belle main avec des doigts qui chantaient, qui chantaient, qui chantaient. Encore les blouses blanches, ça fera bientôt 8 années qu'elle est internée, oui, internée avec les fous, avec les fous. Un grand trait sur les 8 années, tout comme si rien ne s'était passé. Une nuit, elle ira leur voler leurs 8 années. Tiens, v'là la main comme le jour de la robe blanche. Mais pourquoi qu'elle a mis toutes ses blouses blanches? Non, puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Vous voyez bien que c'était vrai. Moi, je savais qu'elle reviendrait. La main, la belle main qui riait, riait, riait. On s'aimera toujours, mon amour. amour, toujours, mon amour, toujours. Silence, vaine espérance, quelle souffrance, quel tourment, déchire mon cœur.
Nicolas Philibert, on est dans quel film, là ?
La moindre des choses.
1980.
Tournage 1995.
Sortie 1996. Qui est cette dame qui chante bien, d'ailleurs ?
C'est une personne qui était à la clinique de la Borde et qui a eu envie à un moment de chanter, nous chanter quelque chose pour le film. Alors on a dit oui, on a mis la caméra et voilà.
Et ça apparaît très tôt dans le film d'ailleurs.
C'est la première scène de La Moindre des Choses, mm-hmm, à la clinique.
Vous l'avez connue cette dame, Linda Desiter,
oui,
vous
sûr,
qui travaillez à la Borde, moins maintenant, mais en tout cas à l'époque du tournage. Qu'est-ce qu'elle faisait là ?
Elle faisait partie du collectif Soignants-Soignés, qui essaye de fabriquer quelque chose et qui puisse faire en sorte que les personnes qui souffrent de troubles psychiques assez complexes, qui ne trouvent plus accueil parfois ailleurs, puissent être à nouveau acteurs de leur trajectoire, de reprendre leur vie, de reconquérir des territoires qu'ils ont désertés, parfois le travail, parfois la famille, parfois la place dans la société. Elle faisait partie de ce paysage-là. Et comme Nicolas Philibert, dans sa démarche cinéma, il nous dit pas qui est qui, parce que la fonction soignante dans cet endroit-là, dans cette philosophie, dans cette psychiatrie-là, est aussi qu'elle peut être partagée par soignants et les soignés. Et c'est parfois les patients qui soignent.
Éric Caravaca, il est impressionnant ce film, notamment parce qu'effectivement, on oublie, on cherche plus qui est malade, qui soigne le malade. On travaille ensemble, on est un collectif, en l'occurrence une troupe de théâtre qui prépare un spectacle. Et il n'y a évidemment pas de blouse blanche à la clinique psychiatrique de la Borde. Ça fait partie de la beauté du film, d'assister à ça.
Oui, oui, comme disait Linda, c'est vrai que ça s'entremêle, on ne sait plus qui est qui. Et puis il y a cette caméra qui capte tout ça avec Nicolas derrière, enfin... Compliqué de ne pas être voyeur dans une situation pareille. Quand j'avais vu le film, ça m'avait bouleversé, ça m'avait fait beaucoup penser à la photo aussi, certains photographes.
Vous pensiez à qui ?
Oh, je pensais par exemple à Eugene Richards, qui est un photographe américain que j'aime beaucoup et qui a pu photographier des choses très intimes comme ça chez les gens et sans jamais de voyeurisme.
Ouais,
et
des moments de perdition.
Des moments de perdition, ouais. Notamment des gens qui prenaient de la cocaïne et surtout les drogues aux États-Unis en rentrant chez les gens comme ça avec et quand on voit ces photos, on se dit tiens, c'est pas voyeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de temps passé. Et c'est ce que aussi fait Nicolas dans son cinéma. C'est
exactement.
C'est qu'aujourd'hui, dans un monde où on va très vite, eh ben, il y a un moment où on se pose et puis le temps est là et puis on le respecte. Je trouve ça quand même indispensable.
Vous avez pris du temps avec ces patients, ces soignants soignés, comme le disait Linda Desiter à la Borde ?
Vous savez, au début, je ne voulais pas faire ce film. C'est un film dont je dis souvent que je l'ai tourné à reculons. Je voulais pas aller à la Borde. C'est des gens autour de moi qui m'ont dit « tu devrais, ça va t'intéresser », etc.
Vous aviez peur ?
J'avais peur. De quoi avais-je peur ? J'avais peur d'instrumentaliser les gens. J'avais peur du pittoresque, de la folie, du folklore, etc. Et je me disais, mais à quoi bon venir braquer une caméra sur des gens qui sont là pour qu'on leur fiche la paix ? Il a fallu presque un an avant que je me décide à franchir le pas, à y aller. Et une fois là, ce sont au fond les gens qui étaient là, patients, soignants. Je savais pas toujours en effet qui est qui, puisqu'il n'y a pas de signe distinctif, il n'y a pas de blouse, etc., de blouse blanche.
Et puis il y a des maladies plus ou moins prononcées. Donc
absolument. Il y a des
malades qui semblent en bonne santé.
Et puis il y a des gens comme vous et moi qui sont simplement à un moment de leur existence, qui sont fragiles et qui ont besoin de faire un séjour là. Et ce sont eux qui, petit à petit, à mesure que j'exposais mes scrupules, mes réticences, mes réserves, m'ont encouragé. On sera là, on va vous aider. En somme, les patients et soignants de la Borde m'ont poussé à me confronter à ma peur, à mes scrupules, à mes doutes, pour que je réussisse à petit à petit les dépasser.
Linda Desiter, vous voyez arriver ce cinéaste qui ne veut pas dire qu'il est cinéaste ni documentariste, mais qui est là pour prendre le temps de regarder et puis ensuite de nous transmettre. Il est comment? Où est-ce qu'il pose sa caméra? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pouvez nous décrire le cinéaste au travail?
Alors, d'abord, on a rencontré quelqu'un qui, en effet, nous a fait part de ses doutes, qu'il a fallu apprivoiser mutuellement, jusqu'à un moment donné où vous nous avez montré le pays des sourds et où, soigné, on lui a dit « mais viens maintenant, on voit bien que tu vas pas faire n'importe quoi et nous, on peut t'aider également ». Ce qui l'a sans doute aidé à décider, c'est qu'il y avait cet spectacle qui permet que les uns et les autres, on se met au travail, on s'offre au regard de l'autre et que là-dessus, Nicolas Philibert pouvait greffer sa caméra. Mais disons que quand finalement la décision est tombée, Nicolas Philibert s'est greffé dans le paysage. Il s'est fondu. En posant parfois des questions, en n'étant pas intrusive, pas condescendant, contaminé lui-même aussi avec un coefficient thérapeutique, comme on dit, c'est-à-dire que c'est ce qui soigne, c'est absolument, ça dépasse absolument le statut. Donc le cinéaste qui soigne, dit comme ça peut être un peu étrange, mais voilà que des personnes commençaient à investir Nicolas, sa petite équipe, comme des personnes en effet qui pouvaient être un point d'investissement important, de rencontre.
Vous pensez que vous les avez aidés, les malades de la Borde, en vous intéressant à eux avec votre caméra?
Je crois que...
Linda dit oui.
Absolument,
oui,
absolument.
Le fait d'être là, de ce tournage, tout simplement, c'était un petit événement dans la clinique et du coup, ça les a portés, au fond. On s'est portés les uns les autres, d'une belle façon. Tout à l'heure, on parlait d'être et avoir comme un tournant dans mon parcours. Mais je pense que si...
Avec
un,
cet instituteur et ses élèves. Hein.
S'il y a un tournant, c'est bien davantage le tournage de La Moindre des Choses, parce que ce tournage a été l'occasion de revisiter mon propre travail, de repenser mon propre travail. J'ai trouvé là, parmi les gens qui étaient là, Jean Houry et l'ensemble des personnels qui sont là, et puis les patients, j'ai trouvé là des gens qui m'ont aider à franchir un cap et aider à me confronter à repenser, à reconceptualiser un peu mes...
Vous avez fait un cinéma différent après 95-96?
Je sais pas si j'ai fait un cinéma différent, c'est pas sûr, mais en tout cas, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. J'ai mieux compris ce que je faisais, ce que je recherchais, peut-être, ce à quoi je me confrontais. Ça m'a beaucoup nourri, au fond.
Est-ce que c'est votre film préféré, La Moindre des Choses?
C'est en tout cas, peut-être, le seul que j'arrive encore à regarder aujourd'hui. Parce que vous savez, Eric le disait tout à l'heure, on regarde pas nos propres films une fois qui sont faits, on les connaît par cœur, etc. Et on n'est pas dans cette complaisance-là à regarder éternellement les films qu'on a faits. Mais La Moindre des Choses, c'est un film qui continue à me bouleverser parce que il y a quelque chose qui est inépuisable dans ses visages, dans ses regards, dans ses mots prononcés par notamment certains patients que j'ai filmés.
Et puis, vous m'avez dit que j'avais le droit de le dire, il s'est passé aussi quelque chose d'important dans votre vie à tous les deux sur ce tournage, c'est que vous êtes tombés amoureux, Linda et Nicolas.
Mais oui.
C'est pas rien.
C'est pas rien. Hein?
Parce que quelques années plus tard, vous êtes là ensemble à témoigner de ce moment.
On est là et 24 ans après, il y a entre nous un dialogue très nourri. On se parle beaucoup l'un l'autre de ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a des passerelles entre le travail que fait Linda en psychiatrie aujourd'hui au cœur de Paris. Et d'une certaine façon, le travail qui est le mien à travers les films documentaires que je fais.
Oui, et puis il y a aussi cette idée qu'il faut se battre. Vous parliez de l'énergie du cinéaste qui doit se battre. Et René Alliot, vous avez appris ça aussi. Vous aussi, vous vous battez pour que la psychiatrie ait un, de l'argent, deux, des lits. Et c'est un combat quotidien, hein, d'être psy.
C'est surtout que la psychiatrie garde son visage humain. Et parce que de ramer à contre-courant contre une idéologie simplificatrice ou une idéologie réductrice, mais faire valoir la complexité de l'humain dans sa dimension biologique, sociale, psychique, en articulation avec les avancées dans les autres domaines neurosciences, etc., mais surtout la dimension relationnelle, ça, c'est un combat de tous les jours, en effet. Et quand Nicolas Philibert est apparu à la Borde, on a vu, en effet, à notre grande surprise, parce que on connaissait pas la démarche cinéma spécifique, mais en plus, celui de Nicolas Philibert, il y a des ponts, des passerelles dans la logique de travail où la rencontre, la relation est au centre. Toutes ces choses qui fabriquent une humanité complexe, voilà.
Depuis que j'ai fait ce film-là, je dis encore plus volontiers qu'avant, vive les couacs, vive les fausses notes, vive les pas de côté, vive l'hétérogène. Vive la rencontre avec l'altérité. Moi, je sais pas penser tout seul. C'est la rencontre avec l'autre, avec les autres, avec ce qui est différent, qui me donne à penser, à réfléchir. Voilà, ça, je crois que c'est des choses qui se retrouvent dans mon cinéma, dans le film d'Éric aussi, et c'est quelque chose qui est très présent à la Borde.
Qui est André Veil, Nicolas Philibert?
André Veil, c'était mon grand-père maternel.
Veil comme Simone Veil, la ministre?
Oui, Simone Veil était ma tante. Elle a épousé Antoine, mon oncle, frère de ma mère. Je ne le dis pas souvent, mais vous me donnez l'occasion de le dire parce que je suis pas, j'aime pas fanfaronner. Simone était ma tante, André mon grand-père.
Et il écrivait de la musique?
Mon grand-père était un petit industriel du textile en Lorraine, juif, républicain, anticlérical, farouchement laïque et républicain. Et pour se détendre, le soir, quand il rentrait, il se mettait au piano et composait de la musique.
André Veil, élégie pour piano, réaction d'Éric Caravaca.
Très touchant, très beau.
Croirait du Gabriel Fauré, non?
Oui, absolument.
La musique dans votre film Carré 35, c'est votre ami musicien Florent Marché.
Florent Marché.
Et le co-auteur, c'est un romancier, Arnaud Catrine. Vous filmez votre famille et vous travaillez aussi d'une certaine manière avec votre famille,
oui,
vos amis.
Putative, une famille putative, oui, ils sont des frères de création, on peut dire. J'ai adoré travailler avec Florent, avec Arnaud Catrine aussi, c'est toujours mon co-scénariste. Et puis être en studio avec Florent et essayer de travailler. Moi, j'ai fait 10 ans de conservatoire et donc j'adore la musique. Ouais.
Conservatoire de musique?
Conservatoire de musique à Tours.
Et vous jouiez de quoi?
Du piano.
Du piano. Continuez un petit peu.
J'ai mis mon fils au piano et j'ai racheté un piano que je n'avais plus à Paris depuis de nombreuses années. Et je me remets un peu
à jouer.
Alors on a abordé le fait que vous êtes en train d'écrire un nouveau documentaire. Est-ce que c'est sur votre fils, par exemple, sur la paternité? J'essaie
non,
de savoir.
Non, c'est pas un nouveau documentaire, une nouvelle fiction en fait.
Ah, c'est une nouvelle fiction.
Oui, parce que le documentaire, je le laisse arriver. Je pense que les sujets viennent aussi à nous.
Frapper à la porte?
Je crois, oui.
Et la fiction nous emmènera sur quelle terre?
Sur la paternité et sur la médecine aussi.
Vous avez entendu tout ce qui s'est dit, les liens psychanalyse, oui. Cinéma, le fait que Philibert prend son temps quand il tourne. Effectivement, j'ai toujours l'impression qu'il y a plusieurs saisons, moi, dans un film, que ce soit La Maison de la Radio ou Être et Avoir, un film de Philibert. Comment ça résonne en vous?
Mais ce que je dirais, c'est que Nicolas Philibert parlait tout à l'heure de se battre. Et je dirais que c'est vrai que ça m'importe, mais de se battre pas contre les autres, comme font les politiques aujourd'hui, malheureusement, mais se battre de manière poétique, je dirais plus comme le travail de Nicolas, et se battre contre soi-même. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se battre pour savoir, d'aller débusquer le fasciste qui est en nous, l'antisémite qui est en nous. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est pas d'aller crier sur l'autre en disant que l'autre a tort. Il faut se battre contre soi, sans repos admissible. C'est là qu'il faut pas baisser les bras.
Le cinéma nous rend meilleurs?
Mais oui, le cinéma, comme disait Nicolas tout à l'heure, nous fait nous interroger sur nous-mêmes. Et au fond, c'est ce qui compte. Je veux dire, il n'y aura pas de grand mouvement. On n'est plus des enfants. Arrêtons de croire ces hommes politiques qui vous disent « nous, on va changer tout ». Non, on change les choses si on change soi-même, si on essaie de se décaler soi-même par rapport à ce qu'on est, si on se débusque soi-même, si on va se chercher soi-même.
Linda Desiter, travaillez bien. Nicolas Philibert, si je vous demande sur quoi vous travaillez en ce moment, vous allez me dire, je ne vous le dirai pas.
Vous ne saurez rien, même, non, rien.
Vous avez le goût du secret, vous. Hein.
Non, c'est pas ça, mais non, c'est pas une posture du tout, c'est que j'en suis au début, et du coup, en effet, pour l'instant, les choses ne sont pas encore sur les rails.
Donc au début de quoi, alors?
Malin. Non. Les personnes que j'envisage de filmer ne le savent pas elles-mêmes. Alors,
à Paris, en province, à l'étranger.
Ce serait maladroit de...
Rien. Je ne saurais rien. Ce que vous savez, en revanche, et ce que vous saurez, c'est qu'il existe un coffret de 12 DVD des films de Nicolas Philibert. Ça se trouve chez Blackout. Ça s'intitule Nicolas Philibert, les films de cinéma. Si je vous ouvrais très violemment le cerveau en deux, qu'est-ce qui émergerait, qu'est-ce qui s'envolerait, des images ou des sons? Des voix, Nicolas Philibert?
Peut-être en fait des voix. Je suis un cinéaste qui aime profondément les sons, le timbre des voix, les accents, les langues, l'écoute. C'est une qualité qui semble de plus en plus rare aujourd'hui. Mais les titres de mes films sont assez éloquents. La voix de son maître, mon premier film. Le pays des sourds. La maison de la radio. Et d'autres encore, mes films mettent en avant le son, inversent un peu la sacro-sainte hiérarchie qui veut que le son soit toujours dépendant de l'image.
On va dire vive la radio, vive le cinéma et vive le cinéma à la radio.